Merci Madame la Présidente. Je souhaite avant tout remercier également les organisateurs pour leur invitation. Et pour combler une lacune, il faut en effet souligner d'emblée que les constitutionnalistes français jusqu'à présent ont manifesté peu d'intérêt pour le constitutionnalisme global. Et c'est pourquoi il convient de saluer cette initiative. Et on l'a vu, je crois, jusqu'à présent, les débats ont été constructifs, en particulier entre constitutionnalistes et internationalistes. Et j'y reviendrai à plusieurs reprises dans mon intervention. Alors, comme on a vu depuis hier, la doctrine cherche à rendre compte et à comprendre les nouveautés liées au phénomène global. Elle participe par son travail de conceptualisation à la construction de la représentation de la réalité, sans toutefois l'épuiser. La difficulté est décuplée pour comprendre la globalisation, puisque ce phénomène renvoie à des processus qui interdisent toute réponse définitive. Ce phénomène est en effet pluriel et envahissant. Les juristes sont sans doute mal outillés, peut-être insuffisamment imaginatif pour l'appréhender et pour l'expliquer, car formaté par le nationalisme méthodologique. Autrement dit, les catégories de l'État national ont structuré et indéniablement structurent encore en grande partie notre compréhension sociale et spatiale du monde. Il est donc inévitable ou presque que se produisent entre les différentes formes de discours qui cherchent à en donner une représentation, une oscillation entre les caractères prescriptifs et descriptifs. Lorsqu'on aborde le constitutionnalisme dans une perspective globale, la difficulté est de surcroît amplifiée, puisque le constitutionnalisme, lui aussi, se présente comme un concept aux différentes couches, un concentré de significations liées à plusieurs traditions. Le constitutionnalisme change à l'ère globale, mais la direction du changement est incertaine et reste ouverte. On est d'accord sur l'idée de changement, mais sans doute pas sur la direction prise. Ce qui conduit certains constitutionnalistes, consciemment ou inconsciemment, à forcer la réalité. Ainsi, Marc Tushnet présente-t-il la globalisation du droit constitutionnel comme inévitable. Dans un article publié à la fin des années 2000, intitulé « The Inevitable Globalization of Constitutional Law », il présente la globalisation comme une convergence des systèmes constitutionnels dans leur structure institutionnelle et dans la garantie des droits et libertés. Les constitutionnalistes comparatistes ont donc repris à leur compte l'expression de constitutionnalisme global pour souligner en particulier la convergence des droits constitutionnels et sans doute plus spécifiquement la convergence des catalogues des droits et libertés. Au contraire, d'autres cherchent à s'en distinguer en assurant la promotion d'un constitutionnalisme transformateur. C'est sans doute une manière de se singulariser en mettant en avant un autre modèle, même si les bases empiriques sont les mêmes. Au sein du constitutionnalisme global, il y a des discours alternatifs. À ce stade, la question qui se pose, quel peut être le rôle de la comparaison des droits et du comparatiste face à ces différents discours contemporains sur le constitutionnalisme. Tout d'abord, il convient de distinguer les différentes utilisations de l'instrument de la comparaison, d'une part par les producteurs du droit et d'autre part par les observateurs. La mise à distance que permet la comparaison n'est sans doute pas le cheminement le plus pratiqué. Au contraire, la comparaison est le plus souvent un instrument de légitimation. Et donc, elle est partie prenante dans le discours global. Il existe une tradition technicienne qui caractérise le comparatisme et qui favorise cette implication, puisque le droit comparé est avant tout conçu comme un instrument d'exportation du droit national ou bien un instrument de réforme interne. Néanmoins, et rapidement, je peux avancer que le droit comparé, en tant que discipline, se renouvelle par l'étude du phénomène global. Processus déjà largement entamé en raison de l'européanisation du droit. Je pense en particulier ici au débat renouvelé sur les transferts juridiques. Conscient de l'utilisation de la comparaison pour servir différentes lectures du droit, certains comparatifs se sont détachés de la vision technicienne pour développer un regard critique, sceptique, sur le droit communautaire, puis le droit de l'Union, comme droit commun, à partir des droits nationaux, alerté notamment par les problèmes de traduction que posent certains concepts ou par les difficultés à greffer des institutions ou des règles étrangères. Dans le prolongement de ce renouvellement, le comparatiste peut aussi exercer ce regard sceptique sur la version globale et les différentes formes de discours qui cherchent à la structurer. C'est donc avant tout une critique d'ordre épistémologique et méthodologique qui peut être développée. Ce qui me frappe en tant que comparatiste et constitutionnaliste, c'est que la méthode a été trop peu convoquée dans le discours global. On viendrait même de parler d'impressionnisme méthodologique, sans doute lié à la difficulté indéniable, et on l'a vu, à saisir une réalité protéiforme et dont témoigne la nébuleuse terminologique pour désigner le phénomène global au plan constitutionnel. Ma démonstration part donc d'une interrogation sur les bases empiriques du discours de la convergence des droits constitutionnels, car si intuitivement on perçoit les changements, il n'en reste pas moins que c'est une réalité qui ne s'offre pas à une connaissance immédiate. C'est pourquoi je développerai ensuite une critique des instruments méthodologiques mobilisés, parce que l'interprétation proposée gomme certaines données qui regardent les différences culturelles entre les systèmes étatiques. Et c'est en ce sens que le discours du constitutionnalisme global est un discours homogénéisant, et donc pour finir, une proposition sera énoncée, à savoir mettre au cœur du discours global le facteur culturel. Après 1989, il est indéniable que l'on observe une effervescence constitutionnelle. Alors qu'on ne change pas de constitution tous les jours, le constitutionnalisme a connu une expansion majeure, d'abord en Europe, puis mondiale, l'Afrique du Sud et un bon nombre de pays de l'Amérique latine. Dans ce contexte, deux faits constituent le fondement de la thèse de la convergence des droits constitutionnels. Le premier correspond à la large diffusion de la justice constitutionnelle et à sa consolidation. Ici, je vais m'appuyer sur un article de Bruce Ackerman, grand constitutionnaliste américain, qui publie à la fin des années 90 un article intitulé « The Rise of World Constitutionalism » et dans lequel il opère une rupture. Jusqu'alors, il est dans une position qui correspond à l'approche traditionnelle du droit américain, repliée sur elle-même. Avec cet article, en revanche, il prône une démarche différente pour penser l'expérience nationale. Il ne présente plus le droit américain, le droit des États-Unis comme un cas paradigmatique, puisqu'il constate que la justice constitutionnelle s'est consolidée en Europe, le contrôle de constitutionnalité, en particulier en Allemagne, et que dès lors, la démarche comparative est tout à fait envisageable. Le second élément, et qui est d'ailleurs étroitement lié à celui-ci, c'est la multiplication des catalogues des droits et des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. D'ailleurs, il y a aussi une interaction possible entre textes constitutionnels et textes internationaux, puisqu'un certain nombre de constitutions renvoient expressément aux traités relatifs aux droits de l'homme. Dans ce contexte mondialisé, L'observateur peut donc constater la migration des idées constitutionnelles. Et si l'idée d'un effacement des frontières s'impose dans le discours global, y contribue beaucoup la diffusion des droits de l'homme et surtout des dispositifs visant à les rendre effectifs depuis la création de la Cour européenne des droits de l'homme. Désormais, la langue des droits s'identifie avant tout à celle pratiquée par les cours et les juges. Le discours de la convergence trouve précisément appui dans la pratique de la citation des solutions étrangères et internationales par les juges. Ce que l'on a nommé, qui a été rappelé hier par Sabino Cassese, le fameux dialogue des juges, qui est donc généralement analysé comme la marque d'un dépassement des frontières juridiques nationales par la constitution d'une communauté de juges à travers le monde. Cette métaphore du dialogue des juges permet aussi de faire le passage du discours de l'européanisation du droit dans un autre discours, celui de la globalisation juridique. En raison du temps qui m'est imparti, je serai un peu rapide, mais la question a déjà été abordée hier. On a vu le rôle joué par les juges européens dans l'identification d'un patrimoine constitutionnel commun, et en particulier le rôle de la Cour de justice de l'Union dans l'identification de traditions constitutionnelles communes. Une précision toutefois. La comparaison ne sert pas forcément à mettre en lumière des convergences entre les droits nationaux des différents États membres. Elle permet aussi de faciliter la réception dans le droit de l'Union européenne de solutions nationales sûres et convaincantes, même si elles sont singulières, comme par exemple le principe de proportionnalité venu du droit allemand, et sur lequel nous aurons plus tard une communication plus approfondie. Dans ce contexte, l'instrument comparatif est aussi une technique de réconciliation des systèmes juridiques et donc un instrument de légitimation du droit en formation. Peut-on concevoir la convergence des droits constitutionnels de la même manière en dehors de l'Europe ? Alors déjà, le discours de la convergence ne va pas de soi en Europe. Je pense ici en particulier à la jurisprudence de certaines cours constitutionnelles sur l'identité constitutionnelle. Ou encore, je pense au cas britannique, bien avant le Brexit, avec la thématique de la renationalisation des droits et donc la contestation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier celle qui regarde le droit de vote des détenus. Pour autant, pour avancer dans la démonstration, je vais reformuler la question. Peut-on voir l'Europe comme modèle d'intégration pour le reste du monde ? Cette reformulation permet de mettre en évidence que le discours de la convergence ne peut pas reposer exclusivement sur la justice constitutionnelle et la protection des droits et libertés. Il y a un aspect institutionnel qui est laissé dans l'ombre par les constitutionnalistes, ou plus exactement qui est laissé aux internationalistes qui le traitent en termes de gouvernance. Alors si la question est évacuée par les constitutionnaliste, c'est sans doute parce qu'elle est susceptible de poser problème. Et cet aspect a été évoqué ce matin dans les débats, puisqu'ici on touche à la question de la prise de décision politique en dehors de l'État et de ses institutions. Et je dirais que ici, en fait, on a un double problème. Ça dépend de où on l'observe. Si je l'observe à partir de la Constitution nationale, le problème est celui qui a été évoqué, à savoir est-ce que la Constitution nationale est capable encore aujourd'hui d'assurer sa fonction de limitation alors que le pouvoir migre. Si je le regarde, ce problème, en revanche, d'un point de vue, on va dire, externe, par exemple, à partir du cadre européen, cela pose, dans le cadre aujourd'hui de l'Union européenne, cela permet de mettre en évidence la crise constitutionnelle, à mon sens, que connaît l'Union européenne, puisque se pose le problème du respect des valeurs que les États se sont engagés à respecter une fois devenus membres. Je pense ici au respect de l'article 2 du traité sur l'Union européenne et au cas hongrois et polonais, hein, qui posent à l'Union européenne un problème, un conflit constitutionnel de nature politique qui regarde l'interprétation de la Constitution en fonction de ses valeurs reconnues dans le cadre de l'Union européenne et qui pose donc le problème de l'identité de l'ordre constitutionnel et donc du principe de légitimité politique qui fonde la Constitution. Une méthodologie, même rigoureuse, ne peut pas permettre, il est clair, de résoudre ces conflits qui viennent d'être énoncés. Elle peut peut-être les prévenir, les prévoir. Plus modestement, j'avancerai qu'elle peut permettre d'éclairer les aspects obscurs du constitutionnalisme global, ce qui suppose de s'interroger sur les fondements méthodologique de la thèse de la convergence. La convergence des droits constitutionnels repose sur une analyse de macro-comparaison qui vise donc à prendre le plus grand nombre possible de systèmes constitutionnels. Sa portée est horizontale et donc adaptée au phénomène global, mais elle perd en profondeur ce qu'elle gagne en étendue. Elle s'adosse sur deux méthodes, l'approche formelle d'une part et l'approche quantitative d'autre part. Un commentaire sur chacun de ces trois éléments. La macro-comparaison est pratiquée par tous les agents de la globalisation, parmi lesquels les juges jouent sans aucun doute un rôle majeur. Or, la séparation n'est pas étanche entre les acteurs de la globalisation et la doctrine. Nous en avons d'ailleurs un excellent exemple parmi nous. Je pense ici, bien entendu, à Sabino Cassese. Alors, je vais reprendre l'argument principal sur lequel repose la thèse de la convergence, à savoir la citation des solutions étrangères par les juges. Or, en examinant les fonctions jouées par la citation des précédents étrangers, on remarque que ces citations sont utilisées surtout comme point de repère. Autrement dit, il s'agit de donner un cadre de référence en listant les décisions étrangères déjà rendues sur une même question, telles que le mariage entre personnes de même sexe. Cette fonction est la plus fréquente, surtout parmi les juridictions de common law, qui sont d'ailleurs celles qui pratiquent le plus souvent et le plus volontiers, je dirais, la citation de précédents étrangers. Et cette fonction permet d'inscrire la décision à rendre dans un contexte plus large, en examinant ce qui a été fait ailleurs, sans qu'il s'agisse de suivre forcément ce qui a été fait ailleurs. Les précédents étrangers sont plutôt présentés comme des sources d'inspiration en vue d'interpréter la Constitution nationale. L'objectif poursuivi est donc de faire savoir que la Cour est consciente qu'elle n'est pas la seule à devoir trancher le problème auquel elle est confrontée. Alors, il y a un autre agent de la globalisation qui mérite d'être cité parce qu'il joue un rôle particulier en matière d'expertise constitutionnelle. Je pense ici à la Commission de Venise. qui a donc été créée au lendemain de la chute du mur de Berlin, précisément pour apporter une expertise constitutionnelle pour les pays d'Europe centrale et orientale et faciliter leur transition démocratique. Alors, en 1990, la Commission de Venise, ça représente 18 pays de l'Europe occidentale. Mais depuis les années 2000, on a une expansion géographique assez impressionnante. Outre les membres du Conseil de l'Europe, je vous donne quelques exemples, hein, on est à une soixantaine de membres aujourd'hui, ça veut dire en 2005 le Chili, la Corée du Sud en 2006 ou encore la Tunisie en 2010. Alors il est clair que pour les experts qui sont appelés à donner une expertise en matière constitutionnelle, prendre en compte une telle diversité, ça devient extrêmement difficile. Et comment opèrent-ils? Eh bien, ils opèrent par catégorie générale, par modèle, qui là encore, sans aucun doute, sont des points de repère utiles, mais qui sont aussi formels. Sans culture constitutionnelle, ces modèles ne sont pas très pénétrants, très clairvoyants hein, sur la situation des pays expertisés. Le rapprochement formel des constitutions, et en particulier des catalogues des droits, renforce également l'idée d'une globalisation du droit constitutionnel. La liberté d'expression, la liberté de religion, ou encore le principe d'égalité, le droit de propriété, si vous les cherchez dans les catalogues des constitutions à travers le monde, vous les trouverez. Ce sont en effet les quatre droits qu'on retrouve le plus facilement dans les catalogues des constitutions. Toutefois, l'approche formelle des constitutions déracine les concepts contenus dans celles-ci. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas leur histoire. Alors il faut reconnaître que les droits sont le plus souvent formulés en des termes génériques. Et cela, en effet, représente un facteur de convergence. Ça facilite, effectivement, ici, cette convergence. Il conviendrait aussi, sans doute, de souligner qu'il y a une confusion sémantique entre droits fondamentaux et droits de l'homme, et que cette confusion, là encore, est un facteur qui donne un potentiel, on va dire, d'universalité aux droits fondamentaux. Et puis enfin, l'approche quantitative. Alors là aussi, on constate que c'est une approche, aujourd'hui, dans les études comparatives qui se développent, elle est très présente aujourd'hui parce que, adaptée au phénomène global, elle permet là aussi de prendre en compte un grand nombre de cas. Et on l'a dit hier, la globalisation, c'est une question de quantité. Alors, cette méthode quantitative, elle s'est en particulier développée toujours sur cette question de la citation des précédents étrangers, puisque initialement, le discours doctrinal s'est construit sur quelques décisions. Il a été porté en particulier par Anne-Marie Slaughter, et à partir, il y a au moins deux décisions qui méritent d'être citées, en particulier donc la décision rendue par la Cour constitutionnelle sud-africaine de 1995 sur l'abolition de la peine de mort. Les constituants n'arrivaient pas à trancher cette question, et donc c'est la Cour qui a dû le faire. Et pour asseoir sa décision, pour donner de la légitimité à sa décision, elle se réfère de manière d'ailleurs massive aux solutions jurisprudentielles étrangères. On compte 220 citations qui renvoient effectivement à des matériaux étrangers. Et puis il y a une autre affaire aussi qui mérite d'être signalée, c'est l'affaire Prince de 1997, cette fois-ci devant la Cour suprême des États-Unis. Alors, ce n'est pas tant pas en raison de l'utilisation qui est faite dans cette décision du précédent étranger que de la controverse entre Justice, Scalia et Breyer, et qui va en quelque sorte lancer au niveau mondial ce débat et cette étude sur la citation des solutions constitutionnelles étrangères, puisque je crois que c'est vraiment un des sujets qui, au cours de ces dernières années, en droit constitutionnel comparé, qui a été le plus traité. Alors, la méthode quantitative a permis précisément de donner un autre regard sur ce débat, mais il ne faut pas oublier de contextualiser les données quantitatives, ce qui me permet d'avancer que la contextualisation est un contrepoids à la globalisation qui tend à uniformiser. Et c'est en ce sens que le comparatisme critique met l'accent sur le cadre des perceptions et de compréhension de chaque communauté juridique, de manière à expliquer comment les différentes communautés conçoivent le droit, ce qui conduit à insister sur la nécessité de tenir compte de la langue, des institutions, des valeurs et pratiques juridiques sur lesquelles s'articule chaque norme. Autant cet effort de contextualisation est important, nécessaire, autant l'exagération de la dimension culturelle du droit peut être dommageable. D'ailleurs, on l'a vu dans le débat sur l'européanisation du droit et en particulier la question des greffes juridiques, qui a conduit certains à soutenir leur impossibilité. Cependant, il n'a pas été démontré par les tenants de cette critique radicale, comme Pierre Legrand, que la convergence des droits signifie la suppression des différences. Et on peut même en douter. Il est donc important de raisonner à partir d'une version modérée, aussi bien du comparatisme que du constitutionnalisme global. Alors, je ne suis pas certaine que tous ceux qui se sont exprimés depuis hier partagent cette vision modérée du constitutionnalisme global. En tout cas, c'est celle à laquelle j'adhère, de manière à rendre possible une discussion. Je crois que c'est ça qui est important, ne pas clore le débat. Et en ce sens, je vois le constitutionnalisme global comme un changement de perspective, ou pour reprendre les termes qui ont été ceux de Anne Peters ce matin, un nouveau cadre cognitif qui, dans lequel on peut penser, en particulier à partir des interactions entre les différents systèmes juridiques, systèmes national, étranger et international. Concernant la version modérée du comparatisme, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je pense au regard du temps qui m'est imparti, eh bien, je vais faire court et je vais me référer à un auteur ici classique. Je vais citer Montesquieu qui, dans la préface de l'Esprit des lois, affiche ses ambitions. Je le cite. « Ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents, ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables. » Et je vais donc à présent prendre deux exemples pour montrer l'importance du facteur culturel. J'en reviens à mon exemple et à la pratique des citations des solutions constitutionnelles étrangères par les juges. Ce qui est frappant, c'est que les juridictions de common law restent entre elles. Autrement dit, elles s'aventurent rarement en dehors de leur aire culturelle. Il y a deux cours qui peuvent être citées parce qu'elles font exception. C'est la Cour sud-africaine que j'ai déjà évoquée, d'une part, et la Cour suprême du Canada, d'autre part. Mais pour le reste, Il s'agit d'un groupe de cours qui appartient à la même famille et dont les réunions de famille restent fermées à ceux qui ne partagent pas les mêmes traits culturels, notamment la langue. Et l'autre exemple que je vais prendre, je le tire de cette expansion du constitutionnalisme que l'on constate aujourd'hui, et je vais donc ici m'attacher à la constitution tunisienne de 2014, et en particulier à son préambule, qui dans l'alinéa 3 nous dit la chose suivante. Nous, représentants du peuple tunisien, exprimant notre attachement à l'islam et au principe universel des droits de l'homme. Ici, la question de la compatibilité de ces différentes marques identitaires se pose avec le constitutionnalisme libéral. Et la question, me semble-t-il, qui peut être formulée est la suivante. Jusqu'où peut-on aller dans la reconnaissance de la diversité sans perdre les fondements à la base du constitutionnalisme? Il convient de se mettre d'accord sur une définition minimale du constitutionnalisme. Alors, si on est d'accord avec celle que je vais avancer, et il me semble, de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, qu'il peut y avoir un tel accord, le concept du constitutionnalisme garde dans sa structure l'idée de limitation du pouvoir et de garantie de l'autonomie des sujets, se pose alors le problème des droits des femmes en Tunisie. Et ici, je vais ajouter un autre élément qui regarde la question de l'enchevêtrement du droit constitutionnel et du droit international pour assurer la protection des droits. Dans le cas tunisien, il faut savoir que la Convention de New York de 1962, qui porte sur le consentement au mariage, l'âge minimal du mariage et l'enregistrement des mariages, a été ratifiée par la Tunisie sans émettre de réserve. Seulement, après la ratification de la Convention, le ministère de l'Intérieur, puis le ministère de la Justice, ont émis une circulaire qui interdit aux officiers d'état civil de célébrer le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Ces circulaires sont toujours en vigueur malgré le remplacement donc, de la Constitution de 59 par la Constitution de 2014. Alors, je vais faire mon autocritique. On pourrait me reprocher ici de m'appuyer sur un exemple et de le monter en épingle. Néanmoins, me semble-t-il, s'ouvre ainsi la perspective d'une histoire différente, parce que le point de vue sur la représentation du monde global n'est plus le même. Une autre voie s'ouvre peut-être, peut-être d'ailleurs plus prometteuse pour le constitutionnalisme global. Il s'agit du constitutionnalisme transformateur, qui est élaboré à partir des expériences de l'Afrique du Sud et d'un certain nombre de pays de l'Amérique latine. Toujours à partir de ces constitutions qui ont un catalogue de droits, qui reconnaissent un grand nombre de droits, y compris des droits sociaux, et également des mécanismes de participation démocratique. Et surtout, ce qui est important à noter, c'est que ces constitutions s'inscrivent dans un contexte social similaire, marqué par de fortes inégalités, une large corruption et, pour faire court, des institutions faibles. Et donc, ici, on voit déjà qu'il y a un changement de direction, puisque ce n'est plus une réflexion qui part du nord vers le sud, mais du sud vers le sud, d'abord. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, ces expériences ont à nous apprendre quelque chose quand on voit le constitutionnalisme européen saper de l'intérieur. il y a peut-être ici la possibilité d'un échange donc du sud vers le nord. Alors pour conclure sur le rôle du comparatiste sceptique, il me semble que ce rôle est de mettre en question le conformisme constitutionnel, puisqu'il y a une conformité constitutionnelle qui est portée, véhiculée par les institutions internationales et européennes, parce qu'il faut donner des gages aux investisseurs internationaux, les pays en voie de transition démocratique s'y conforment. Mais on l'a vu dans les débats qui ont été ouverts depuis hier, il me semble que pour l'observateur critique, on peut très bien imaginer, selon les domaines, une convergence profonde, alors que dans d'autres, elle sera superficielle en raison des différences d'ordre conceptuel, enracinées dans une histoire ou en raison des contextes sociopolitiques différents. La similarité des règles ou des principes constitutionnels, ne signifie pas la convergence des systèmes pris dans leur ensemble auxquels ils appartiennent. Finalement, être attentif aux différences signifie ne pas s'en tenir à la seule forme des constitutions, mais à leur fonction. C'est aussi rappeler qu'une constitution, ce n'est pas exclusivement des normes, mais aussi une pratique, une culture constitutionnelle. Et dès lors, une approche culturelle et différentielle conduit à porter l'attention sur les éléments autres que les normes. Je vous remercie.